Bonjour Mathieu, bonjour Camille. Ici Catherine d'un petit village qui vous dira rien, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Je vous appelle parce que j'aime beaucoup votre émission, je vous aime beaucoup tous les deux. J'aime beaucoup la rubrique de Camille aussi, Camille Passauvert. Je la trouve courageuse et bien plus diplomate que moi, quoi. Vraiment, il y a des fois je m'agacerais bien plus qu'elle. Mais bon, elle doit donner le bon exemple, elle au moins. Et elle donne le bon exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, trop de musique, trop de musiquettes, en plus des chanteurs sans voix, enfin, bon, bref, qu'on écoute à longueur de journée sur France Inter. Stop, on est capable quand même de se concentrer 55 minutes sur une émission qui parle d'environnement, de sujets qui nous passionnent. Nous sommes des millions en France à être passionnés par ce sujet dont on ne parle pas suffisamment. Je vous embrasse par téléphone, vous ne risquez rien, et je vous remercie pour tout ce que vous faites sur le service public. C'est important, il y en a de moins en moins du service public. À tout bientôt, au revoir, je continuerai de vous écouter, hein, même si vous continuez de mettre de la musiquette. Ciao, ciao.
Bonjour, c'est Antoine de Sainte-Cécile, merci pour vos émissions. Suite à l'émission sur Pasteur, c'était juste pour dire que ce serait intéressant de pas tomber dans le travers de notre société qui met les pro-vax et anti-vax l'un contre l'autre. Le monde est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que, comme moi, il y a plein de gens qui sont très proches du vivant, proches de la nature et qui refusent de se faire vacciner. Et c'est pas pour ça que c'est des anti-vax. Donc, merci de respecter tout le monde. Sinon, on s'en sortira jamais. Voilà, bonne journée à vous.
Bonjour La Terre au Carré, c'est Nelly à l'appareil de Rueil. Je voulais vous remercier pour la belle émission de Guy Vanctil concernant l'installation de l'usine Rio Tinto pour extraire le lithium en toute impunité dans un pays où la législation écologique n'est pas très rigoureuse. Sur RFI, j'écoutais Camille Clément qui évoque les conséquences néfastes de la colonisation qui nous ont amenés à voler les terres des autres pour en faire ce qu'on veut, y compris détruire cette terre, ce sol et ses occupants pour nos intérêts propres. Et j'ai rapproché ces deux événements à l'excellent fascicule « Cadavre noir » de Gérard Prunier, que je vous recommande chaleureusement de lire. Merci de m'aider à rester humaine, La Terre au Carré, et que cette année soit celle de l'ultime et nécessaire métamorphose, mourir à soi pour renaître en mieux. Voilà, un projet un peu différent de l'éternel développement qui nécessite toujours plus. Bonne journée, au revoir, merci.
Bonjour, Jean-Marie, paysan Bocage Bourbonnais. Au cours du 13-14 et du 3 janvier, le ministre de l'Agriculture finissait son intervention en disant que le glyphosate permet une pratique agricole fixant le carbone du sol. Fixer du carbone dans le sol, c'est une catastrophe. C'est ralentir l'activité biologique des sols. Et c'est pas une solution, c'est une vision à très court terme. Mais je suis un peu dégoûté de l'agriculture où l'on est parti. Et des pensées qu'on a, on est pris complètement la gorge. Mais moi, je vous laisse. J'ai plein d'idées dans la tête, mais c'est pas facile. Voilà, merci, au revoir.
Merci beaucoup Jean-Marie pour votre message bien reçu et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pris la peine évidemment de composer le numéro du répondeur qui était riche en témoignages, vous l'avez entendu encore aujourd'hui. Notez bien le numéro si à votre tour vous souhaitez nous appeler pour parler d'écologie, 01 56 40 45 45, c'est valable 24 heures sur 24. Quel goût aura le vin que nous boirons demain en France? Comme toute l'agriculture, le monde de la viticulture, particulièrement sensible au moindre dérèglement climatique, se prépare déjà aux changements liés à l'augmentation des températures. Ces changements sont déjà visibles et auront de plus en plus de conséquences sur le fonctionnement des vignes, sur le rendement et la composition des raisins, sur l'élaboration du vin et la localisation même des vignobles. C'est donc dans ce contexte plus chaud et plus sec, qui met déjà les vignobles à rude épreuve, que la vigne donc se prépare dès maintenant au climat de demain avec plusieurs pistes qui sont à l'étude. Alors entre changement climatique et pression sanitaire, eh bien quel sera donc le goût du vin dans les prochaines décennies? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités qui sont en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, Nathalie Ola et Gaëlle Reynou-Gravier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Nathalie Ola, vous êtes directrice de recherche au sein de l'unité écophysiologie et génomique fonctionnelle de la vigne. C'est à Bordeaux. Vous étudiez, on en reparlera, les interactions de la vigne avec l'environnement. Et vous travaillez sur le projet La Cave, qui explore et teste les adaptations possibles à l'horizon 2050, donc pour les vignes. Gaëlle Reynoux-Gravier, vous êtes vigneronne au domaine de Perron en Dordogne. C'est une propriété familiale d'une vingtaine d'hectares. Et vous nous direz concrètement ce que vous observez, vous déjà, sur vos vignes et comment, évidemment, vous préparez l'avenir. On se retrouve dans un instant avec les messages, toutes les questions de nos auditeurs. Ils nous retrouvent sur la page de La Terre au Carré, les réseaux sociaux et bien sûr l'appli France Inter avec les notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Icemageddon, tempête de glace en Alaska, et même si ça paraît loin de nous, pas tant que ça, vous comprendrez.
Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati, et c'est Clément Berman qui est à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré, sur France Inter.
Si on n'est pas capable de se remettre en cause et de se remettre en question et de se réinventer, nos AOC sont mortes. Je n'ai pas peur de le dire, c'est de la survie de nos appellations dont on parle.
Cette augmentation de température moyenne, elle va affecter le fonctionnement de la plante, sa précocité, son développement et même la qualité des baies. Et ça peut être aussi préjudiciable à la qualité du vin. Le changement climatique s'accélère, et donc ce qui est demandé aux viticulteurs, c'est d'accélérer aussi, de leur côté, leur processus d'adaptation.
Voilà une vidéo du Monde en août 2020 avec Jean-Marc Touzard, chercheur à l'INRAE. Et donc la vigne à l'heure du changement climatique, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui dans La Terre au Carré. Nathalie Ola et Gaëlle Reynoux-Gravier, vous êtes donc toutes les deux à Bordeaux pour cette émission. Alors on ne parlera pas que du sud-ouest cet après-midi, hein, puisqu'évidemment le changement climatique concerne déjà tous les vignobles de notre pays. D'ailleurs, Nathalie Ola, le projet La Cave dont on va discuter au cours de cette émission, c'est précisément sur l'ensemble du territoire, hein.
C'est exactement ça, en fait. L'idée, c'était vraiment de considérer la question à l'échelle de l'ensemble du vignoble français et aussi de pouvoir coordonner tous les travaux de recherche qui sont réalisés à cette échelle pour pouvoir s'entraider et puis réfléchir ensemble aux solutions possibles.
Ouais. Sur quoi vous travaillez-vous exactement au sein de votre unité là, à Bordeaux, Nathalie Ola?
Alors, nous, on travaille sur le levier lié à ce qu'on appelle le matériel végétal, donc les cépages, d'une part, qui pourraient contribuer à la réponse et à l'adaptation au changement climatique, et puis la partie souterraine de la vigne, qui est le porte-greffe. Et donc, en combinant à la fois cépages et porte-greffe, on essaie de pouvoir proposer des solutions qui répondront aux enjeux de l'avenir.
Ouais, c'est quoi exactement le porte-greffe, alors, pour bien comprendre ceux qui ne connaissent pas forcément très bien le monde de la vigne?
Alors, depuis le milieu du 19e siècle, il y a un puceron qui a été introduit d'Amérique du Nord, qui s'appelle le phylloxéra. Mmh. Et la vigne européenne, qui est connue pour ses cépages, s'est avérée extrêmement sensible à ce puceron. Et ça a d'ailleurs failli faire disparaître le vignoble français européen. Et des chercheurs, à l'époque, ont identifié une solution qui était de greffer la vigne, hein, donc de prendre des vignes qui venaient aussi d'Amérique du Nord, et puis de les greffer avec les cépages français et européens. Et cette nouvelle plante, hein, qui est en fait une greffe, eh bien, elle s'est avérée pouvoir faire face à ce phylloxéra. Et donc, c'est comme ça que la vigne est cultivée depuis la fin du 19e siècle.
Gaëlle Reynoux-Gravier, emmenez-nous d'abord dans votre domaine de Perron en Dordogne, s'il vous plaît. Vous faites du bio là-bas. Présentez-nous un petit peu l'endroit où vous travaillez.
Alors moi, je suis sur l'appellation Bergerac et plus particulièrement sur Mauravel. J'ai 25 hectares donc en agriculture biologique et donc j'ai repris l'exploitation familiale derrière mon père. Je suis la cinquième génération.
Ouais. Alors vous êtes installé quand personnellement ?
Je suis installée depuis 2013.
Ouais. Est-ce que les changements là que vous observez dans votre vigne, ça fait l'objet de beaucoup de discussions dans la famille justement entre les différentes générations? Est-ce que votre père ou votre grand-père, ont noté vraiment des choses très très différentes de ce que vous voyez maintenant?
Alors moi, je suis installée depuis 2013 et c'est vrai que depuis 2013, on a quand même des années, des millésimes difficiles puisque en fait, on enchaîne des millésimes de gel, de conditions de pluviométrie très importantes, ce qui fait qu'on a beaucoup de maladies. Ouais. Donc en fait, mon père avait connu le gel en 91, en 77. mon grand-père en 56, mais c'était quand même, c'était rare, c'est-à-dire qu'en gros, une génération avait un gel, voire deux, alors que moi, j'en suis déjà à ma deuxième, mon deuxième épisode de gel. Mmh. Et ça, c'est... Oui.
Non, non, pardon, finissez votre phrase, je croyais que vous aviez fini, allez-y.
Allez-y, allez-y.
Vous dites que vous êtes installé en bio donc depuis 2013. Avant, donc votre père, votre grand-père, c'était en conventionnel. Comment ça s'est passé, la transition?
Alors, quand j'ai repris le domaine, mon père était en viticulture raisonnée. Moi, je suis passée en terra vitis en 2014. Petit à petit, en fait, je me suis mis dans un groupe de réflexion. J'avais envie de réfléchir justement à nos pratiques liées à l'impact sur l'environnement, sur les sols, sur la plante elle-même. Et puis après, j'ai pris la voie du bio en 2019. Donc, je suis juste certifiée bio. Donc, c'est mon millésime 2022. Mes premiers vins seront certifiés bio en 2022.
Très bien. Donc, vous attendez ça avec impatience, j'imagine?
Oui, tout à fait.
Une vigne, justement, Gaëlle Réunou-Gravier, pourquoi est-ce que c'est particulièrement sensible au changement du climat en particulier?
Alors, le souci majeur, c'est qu'on a des hivers qui sont de plus en plus doux. Donc, on a pas des températures négatives. C'est pas selon nous suffisant. Et après, surtout, on a donc une vigne qui va démarrer très vite. Donc, les bourgeons vont éclater très vite. Et donc, en avril, il y a des épisodes de froid avec des moins 2, moins 3. Mais à ce stade-là, le bourgeon est très sensible. Et donc, on se retrouve avec des vignes qui démarrent très vite. Très vite, et qui gèle aussi, qui peut, alors pas à 100%, mais parfois 20%, comme cette année, 20-30%. Et parfois, il y a des vignobles cette année, comme la Bourgogne, qui ont gelé à 100% parce que la vigne a démarré très tôt et qu'on a eu des froids en avril et en mai.
On a vu ces épisodes effectivement totalement catastrophiques. Nathalie Ola, on parle parfois d'une situation très grave pour la viticulture mondiale avec le réchauffement climatique qui pourrait, selon certains experts, faire disparaître plus de la moitié des régions viticoles de la planète à l'horizon, par exemple, 2050. Est-ce que les projections et les travaux que vous menez montrent une situation aussi catastrophique que ça?
Alors, pas tout à fait, mais il faut prendre ces projections, c'est des simulations. Donc, comme personne n'est devin, il faut identifier dans quelle fourchette on peut se trouver. C'est vrai que si on s'intéresse particulièrement au problème de l'eau, ça peut avoir des conséquences assez graves sur la viticulture, notamment dans les pays un petit peu du sud, hein, comme l'Espagne, le sud de l'Italie, et réduire un peu le potentiel dans le sud de la France. Cependant, la France est à une position charnière, et si certaines régions pourrait avoir un impact assez négatif, on peut penser qu'il y aurait que de nouvelles régions viticoles pourraient apparaître en Bretagne, par exemple, ou dans le nord de la France. Ouais. Donc, pour le vignoble français, c'est un petit peu difficile et nous sommes un petit peu plus optimistes que ces prévisions qui disent que 50% du vignoble pourrait disparaître.
Mais on entend souvent dire, parfois même sur le ton de la blague, que par exemple le champagne bientôt se fera au Royaume-Uni, voilà, etc. Là, vous nous parlez de la Bretagne, donc ça voudrait dire que quand même la carte des vignobles va être totalement revue ou pas?
Alors, non, je pense qu'il faut pas avoir en tête, faut pas être, c'est pas aussi franc que ça. Il va y avoir des nouvelles, on pense qu'il y a de nouvelles régions qui pourront développer un potentiel viticole. Dans le passé, les raisins avaient du mal à y mûrir et à l'avenir, on peut trouver des situations où le raisin arrivera à mûrir. Donc il n'y aura pas un chamboulement complet de la carte des régions viticoles en France. Et puis c'est complètement faux de dire qu'on fera du champagne dans le sud de l'Angleterre, on fait du champagne en Champagne, on fait du Bordeaux à Bordeaux, parce que c'est pas une question de climat, c'est une question de l'ensemble des savoir-faire qui sont associés à une production. Donc il peut apparaître des nouvelles régions viticoles, certaines régions comme le sud de l'Angleterre peuvent avoir leur potentiel viticole qui augmente, mais elles produiront éventuellement des vins qui feront des vins effervescents, mais pas du champagne.
Gaëlle Réunou-Gravier, est-ce qu'on trouve des viticulteurs climato-sceptiques ? Ou alors franchement, aujourd'hui, c'est plus possible de nier la réalité là sur le changement climatique ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de climato-sceptique en viticulture. Je pense que les gens sont conscients. Et puis, il y a beaucoup de travail qui est mené sur la gestion de nos sols de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui sont venues de l'agriculture, comme les couverts végétaux dans les vignes. C'est-à-dire qu'on stocke du carbone. Tout le monde va dans le même sens. C'est-à-dire, vous avez vu le taux de conversion biologique, mais pas que, de gens qui désherbent de moins en moins, parce qu'il y a vraiment une conscience que nos pratiques ont une influence sur l'environnement. Et donc moi je pense qu'on en est tous conscients. Et puis bon, ce qu'on voit, les épisodes de pluie diluvienne dans le sud ou de froid extrême à des périodes, voilà, ouais. Voilà, c'est très concret pour nous tous.
Ouais. Le taux de conversion en bio, c'est quoi concrètement dans votre profession ?
Alors, c'est 10% des fermes viticoles en France, mais il y a des départements qui montent, par exemple la Dordogne, on en est fiers, on a un taux de conversion autour de 35%, ce qui est fort et voilà, qui est. Mais aujourd'hui, l'Alsace, le sud de la France, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette conversion-là, mais il y a des départements qui sont très très dynamiques.
Ouais. Allez, quels sont les changements observés sur la vigne et à quoi va ressembler le vin de demain ? On en parle dans un instant avec vous et vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr. C'est la Terre au carré. À notre auditrice du répondeur aujourd'hui. C'était Métronomie avec It's Good to Be Back.
La Terre au carré sur France Inter.
En Bourgogne, et particulièrement en Côte d'Or, Côte de Nuit, Côte de Beaune, il est proposé deux cépages. Pour les blancs, ça sera le chardonnay. Pour les rouges, l'incontournable pinot noir. D'aucuns disent que ce changement climatique amènera un changement de cépage.
Voilà, extrait de TV Net en 2015, les vins de Bourgogne, pour parler des vins justement sur tout le territoire français face au changement climatique, avec nos invités en direct de France Bleu Gironde à Bordeaux, Nathalie Ola et Gaël Reynoux-Gravier, avec déjà des questions des auditeurs. Nathalie Ola, quels sont les changements ? Allez, vraiment, ce qui marque le plus aujourd'hui, ces dernières décennies, avec l'augmentation des températures, c'est quoi dans les vignes ?
Alors, ce qui marque le plus, on va dire que c'est d'abord l'avancée des dates de vendange, hein, qui a progressivement, s'est avancée à peu près d'environ 3 semaines au cours des 20 ou 30 dernières années. Et puis, des raisins qui sont plus sucrés, qui sont moins acides. Et donc ça affecte à la fin la composition des vins, avec des vins qui sont plus riches en alcool, et puis dont les équilibres gustatifs sont affectés. Et ça peut avoir des conséquences assez négatives sur la qualité et la conservation des vins. Donc c'est ce qui est le plus marquant, avec... En plus, ce qui a été dit par Gaël tout à l'heure, c'est l'impact des aléas, notamment le gel de printemps, qui, à l'échelle de la France, il y a quasiment plus une seule année, depuis 5 ans environ, ouais, où il n'y a pas de gel de printemps important qui détruit une grande partie de la récolte.
Gaël Reynou-Gravier, avant de passer aux questions des auditeurs qui arrivent nombreuses, c'était quoi la date de vos vendanges là, cette année chez vous, en Dordogne?
Alors cette année c'était pas forcément très tôt.
On a
voilà. Non, cette année on est reparti un millésime plus frais. Je pense que vous l'avez vu aussi.
Ouais.
Bah oui, mais alors il a beaucoup plu. Pour le coup, c'était pas non plus super parce qu'on a eu un printemps, un été super pluvieux. Mais en fait, si on prend l'année dernière, pour le coup 2020 était vraiment hyper précoce. On a commencé à vendanger le 28 août. Pour des rosés et des blancs, et ce qui est extrêmement tôt, nous on est plutôt à partir de la mi-septembre de manière générale.
Je disais zut évidemment, parce que ça contredisait la démonstration précédente. Hein.
Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Gaël Reynou-Gravier, vous dites « Ah, il a plu, c'était pas super ». Une petite remarque, on a l'impression quand même qu'en fait ça ne va jamais, c'est-à-dire il pleut, il y a du gel. Et là, quelles sont pour vous les conditions idéales? Et à un moment, vous savez que vous devez composer avec la météo et le climat, c'est le cœur de votre métier quand même. Je me fais voix de certains auditeurs peut-être qui disent on a l'impression que ça ne va jamais.
Oui, alors c'est vrai, et on est tout le temps connecté à nos applications météo, nos enfants nous le disent assez souvent. C'est vrai qu'on n'est pas content, mais il faudrait de l'eau, mais après, du moment que la vigne est partie à pousser, il ne faut pas trop d'eau, parce que sinon il y a des maladies, et donc on est confronté au mildiou, à l'oïdium, à d'autres maladies, et donc après... Le problème, c'est qu'après ces épisodes d'eau, on a des étés qui sont hyper secs, on n'a plus une goutte d'eau. Donc on va dans un balancier complètement opposé, où on n'a plus d'eau et qu'on attend le petit nuage des vendanges qui va refaire gonfler un peu les raisins. Donc c'est sûr qu'on paraît ne jamais être content, mais c'est vrai que les derniers... Par exemple, un beau millésime dernier, c'est 2015, où on avait tout eu... un peu d'eau, un peu de soleil, tout ce qu'il fallait. Donc,
mais est-ce que vous avez l'impression que votre père, Gaël Reynou-Gravier, était globalement plus satisfait que vous de sa vigne?
Oui, oui, je pense. Qui disait que c'était plus facile. Alors, il y avait eu aussi, nous, c'est le Merlot qui est très dominant dans nos vignobles. Et le Merlot, il allait très bien dans les années 80. Il y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Merlot, ben, il est plus très adapté. Et justement, lui, il est hyper sensible à ces aléas climatiques.
Un message d'Adeline sur franceinter.fr pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie Ola. Elle nous explique qu'elle a une maison à Belle-Île-en-Mer et que quelqu'un a un projet de planter des vignes sur l'île afin de produire du vin. Donc vous disiez que bientôt il y aurait la Bretagne comme terre de viticulture. Ben voilà, ça s'illustre. Et puis une question de Stéphane d'Aix-en-Provence qui nous demande si tous les vins, hein, les rouges, les rosés, les blancs, etc. seront touchés de la même façon par le réchauffement climatique.
Alors... Non, de toute façon, il n'y a pas de constance. Alors, bien sûr, il y a une élévation tendancielle des températures, peut-être plus de sécheresse, mais pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, la variabilité entre les années, elle reste et elle peut même augmenter. Donc, le fait que cette année, finalement, n'a pas été très, très précoce, c'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de changement climatique. On pense aussi que les vins blancs ou les vins rosés seront plus sensibles par rapport aux rouges qui peuvent encore bénéficier peut-être dans certaines régions notamment de cette augmentation des températures et de ces conditions plus sèches, parce que ça peut conduire à finalement à une teneur en alcool un petit peu plus élevée. Éviter dans certaines régions l'ajout de sucre et la chaptalisation, permettre une meilleure composition en polyphénol, hein, c'est ces composés qui donnent la couleur et la structure des vins. Donc, des conditions climatiques, finalement, qui jusqu'à un certain point peuvent être encore assez favorables pour les rouges, ce qui est moins le cas pour les blancs.
L'augmentation du taux d'alcool, hein, vous en parliez, Nathalie Ola. On va écouter Xavier Buffaut, qui est directeur du château de la Rivière dans le Bordelais, et Lilian Berillon, qui lui est pépiniériste dans le Vaucluse. C'est un reportage de France 24 en 2017.
Des bouteilles de 1980, 12,5 degrés d'alcool.
Le taux d'alcool culmine à 15 degrés en 2010.
Il faut qu'on adapte notre vignoble, il faut qu'on adapte nos techniques de travail à la vigne et au chai, puisqu'un degré d'alcool trop important dans les vins fait que le vin devient invendable. Petit à petit, année après année, on modifie un petit peu l'assemblage général de la propriété et donc des vins, et ce qui va nous permettre de jouer sur la quantité d'alcool produit dans nos vins.
Autre solution, la façon de tailler la vigne peut aussi modifier le taux de sucre.
J'enlève quelques feuilles au niveau de la zone des grappes. Il ne faut pas non plus que les raisins soient exposés trop longtemps ou trop fortement au soleil. Donc on va garder des feuilles un petit peu au-dessus qui vont jouer un rôle de parasol.
À 600 km plus à l'est, à Châteauneuf-du-Pape, ce pépiniériste spécialiste de la vigne a une autre stratégie. Il veut nous montrer la longueur des racines. Elles peuvent atteindre plus de 10 mètres. La plante peut donc se nourrir plus facilement en eau.
On veut que la vigne s'installe en profondeur pour qu'elle aille le plus profond possible chercher cette fraîcheur qui lui est nécessaire. Si on n'utilise pas ce mode d'implantation pour créer les vignobles qui vont résister au changement climatique, c'est mort, quoi. C'est foutu. Pour le vignoble, c'est foutu.
Voilà, reportage de France 24. Gaël Reynaud, vous, en Dordogne, d'abord, est-ce que vous avez observé ce taux, cette augmentation de l'alcool? Et est-ce que vous avez des techniques pour faire baisser, justement, le taux?
Alors, de technique, pas réellement. Alors, on observe cette augmentation d'alcool. Si on reprend 2020, on avait des rouges qui étaient sur les merlots autour de 15, des assemblages blancs qui étaient autour de 13. Donc ça, c'est clair qu'on le voit. Après, des techniques, c'est un peu compliqué. Je pense qu'après, c'est global, c'est-à-dire justement favoriser l'enracinement profond. Ça, c'est des choses qu'on fait. On essaie aussi de moins travailler nos sols, de mettre des enherbements permanents pour éviter qu'il y ait trop d'évapotranspiration, de garder de la fraîcheur au sol, ça on essaie aussi. Après, nous, on fait le jeu d'attendre la petite pluie, comme j'ai tout à l'heure, de plutôt vendanger après la pluie qu'avant, parce qu'il y a quand même un phénomène de dilution. Mais après aussi, c'est le choix des cépages. Je crois que pour ma part, moi, j'essaie de réduire la part du merlot et de plutôt planter des cépages, des cabernets, des malbecs qui ont des alcools un peu moins élevés.
Allez, on en reparle avec vous dans un instant pour comprendre comment la vigne française va être modifiée dans les prochaines années. Et plein de questions pour vous sur la page de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Et à 14h31, Camille passe au vert.
Et d'abord, écoutez Sam. Des pas sur de la glace qui a recouvert toute une partie de l'Alaska juste après Noël.
Pure ice. Crazy, crazy storm.
De la glace pure, dit cette habitante de Fairbanks, la deuxième plus grande ville. Sacrée tempête tellement dingue qu'elle a été surnommée Icemageddon, en référence au film Catastrophe, parce que cette partie du territoire s'est littéralement transformée en patinoire. La glace recouvre tout, les routes, les bâtiments et même la neige.
Icemageddon is probably an apt word for what happened to us right after Christmas.
Rick Thoman, spécialiste du climat à l'université d'Alaska et habitant de Fairbanks, valide le surnom Icemageddon. Je l'ai eu hier soir, hein. Oui, là, il dort, hein, il y a 10 heures de décalage. Hier soir, donc, pour qu'il m'explique ce qu'il s'était passé, car l'Alaska sous la neige et dans le froid en hiver, c'est normal, mais la glace, c'est pas pareil.
On a eu 20 à 30 mm de pluie en une journée. C'est extrêmement rare d'en avoir autant à cette période. Ça n'est pas arrivé qu'une fois dans les 110 dernières années. Et comme les températures sont comprises entre moins 25 et moins 40 degrés, cette pluie, elle a instantanément gelé.
Une couche de glace de quelques centimètres, dure comme du béton, absolument impossible à enlever. Il faudra attendre le mois d'avril, le printemps, pour que ça fonde. Autant vous dire que même s'ils sont habitués aux conditions difficiles, les Alaskiens galèrent pour se déplacer en particulier, et ce ne sont pas les seuls.
C'est un gros problème pour les animaux de la forêt boréale. On a vu par exemple des élans qui, à cause de la couche de glace sous la neige, restent près des routes pour se déplacer plus facilement. Et ils deviennent très agressifs. Des gens ont été blessés rien que ces 10 derniers jours. Normalement, ils restent loin des habitants. Ils ont les chocottes.
Grosse pagaille donc, et la seule autre fois où cette partie de l'Alaska a connu donc des conditions similaires dans les 110 dernières années, c'était en janvier 1937. Alors, la glace qui gèle parce qu'il fait moins 40 degrés, c'est tout con, ça paraît très logique, mais comment expliquer que de la pluie donc qui gèle, plutôt que de la neige, soit tombée du ciel?
C'est une espèce d'ovni en fait météorologique véritablement qui s'est produit.
Alors là, ce n'est plus Rick Thoman qui parle, mais François Gourand, prévisionniste à Météo France et enseignant en météorologie polaire.
C'est le fameux jet stream ou courant de jet en français, donc qui est sont ces vents puissants d'altitude, autour d'une dizaine de kilomètres d'altitude, tout autour de la Terre. Là, ça fait une sorte de ruban. En fait, ça délimite les masses d'air, on va dire d'origine tropicale ou en tout cas relativement chaude, des masses d'air polaires. Et là, en fait, le courant de jet parfois a des sinuosités, devient beaucoup plus sinueux avec ce qu'on appelle des branches méridiennes. Et là, on a eu vraiment une branche incroyable qui s'est bloquée pendant quelques jours, qui allait véritablement quasiment des îles de Hawaï, donc tropicales. Jusqu'au cercle polaire, quasiment en Alaska.
L'humidité subtropicale est remontée, elle a débarqué donc en Alaska. D'ailleurs, plus au sud de l'État, à la même période, on enregistrait un record de température avec 19,4 degrés. C'était le 26 décembre, 19,4 degrés en Alaska. Rick Thoman, sur place, voit dans tout cela la main du dérèglement climatique.
Le réchauffement et le changement climatique ont sans aucun doute augmenté la probabilité de ce phénomène anormal et sans précédent. Le climat ne provoque pas seul les événements, mais rend certains événements extrêmes plus probables qu'il y a 50 ou 100 ans. Et ça va certainement devenir plus fréquent.
Confirmation d'une étude de l'Université d'Arizona il y a quelques mois, le jet stream pourrait se déplacer de plus en plus régulièrement vers les régions polaires d'ici la fin du siècle.
Ça va engendrer des pluies très importantes, y compris dans des saisons froides comme ceci, avec ce type de conséquences, mais aussi, il faut voir le pendant en été, c'est aussi des pluies très abondantes avec des inondations à la clé, et la corrélation de ça, c'est des sécheresses dans d'autres régions, parce qu'en emportant toute l'humidité finalement des tropiques sur la région plus au nord, les régions qui normalement sont traversées un peu par ce courant de jet en été, sont privées de cette humidité, et du coup, avec l'augmentation des températures, c'est les canicules et les sécheresses à la clé.
Conséquence valable pour tout l'hémisphère nord, ne croyez pas donc parce que c'est au bout du monde en Alaska que ça ne nous concerne pas.
Et c'est Camille Passauvert que vous réécoutez bien sûr sur la page de l'émission.
Nathalie Ola, des vignes en Alaska quand même, on n'y est pas là.
Non, pas tout à fait quand même.
Bon.
Vous avez travaillé avec les Américains ou pas?
Alors, on a des collaborations avec tous les pays viticoles, et on a des collègues en Californie, en Oregon, qui travaillent sur ces questions-là, pour parce que c'est vraiment, il faut avoir une vision internationale. Il y a aussi des solutions qui peuvent venir d'autres pays viticoles qui connaissent naturellement les conditions plus chaudes et plus sèches. Donc, bien sûr, nous travaillons avec nos collègues américains.
Allez, quelle solution dans un instant pour renforcer la vigne face au réchauffement climatique, dossier de la Terre au Carré.
Quand je regarde dehors, je vois des village du Nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Il neige sur Labrador, les murs me font perdre. Fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Dépêcher pour toi les oiseaux. Ma fenêtre est close et j'ai le vague à la. Mm-hmm.
La fièvre noire, c'était la voix de Laura Cahen et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
La cartographie va forcément évoluer parce qu'on sera capable de produire des vins d'assez bonne qualité dans des nouvelles régions ou dans des nouveaux pays, y compris en France. Peut-être de la vigne qui va se développer en Bretagne, en Normandie. Ceci dit, je ne crois pas que c'est la fin des grands vignobles traditionnels français.
Voilà, la voix de Daniel Coulon, viticulteur, c'était au micro de France 24 et on parle donc de vin et de réchauffement climatique. Et vous, Nathalie Ola et Gaëlle Reynoux. Une question d'ailleurs, Camille, tout de suite pour...
Oui, sur l'application France Inter, Stéphane nous demande, parmi les problèmes causés sur la vigne par le réchauffement climatique, lequel est celui qui est le plus redouté? Est-ce que ce sont les grands écarts de température, les sécheresses, le mûrissement trop tôt, la grêle, les pluies diluviennes ou les insectes parasites qui se multiplient, Nathalie Ola?
Difficile de répondre à cette question parce que en fait ça peut vraiment varier d'une région à l'autre. Donc dans le sud de la France, ça va être plutôt les sécheresses répétées qui affectent le potentiel de production et donc la durabilité et la rentabilité des exploitations. Dans d'autres régions, on va plus redouter effectivement les températures élevées, le décalage des vendanges, et puis il y a tout ce qui est aléa, cette question du gel, hein, peut-être qui avait été sous-estimée pendant au début des travaux sur ces questions-là, et qui chaque année fait peser une épée de Damoclès sur la tête des viticulteurs au mois d'avril, hein, pour se dire est-ce que l'année va se terminer là ou est-ce qu'elle va continuer.
Et vous, Gaëlle Reynoux, qu'est-ce que vous craignez le plus alors pour compléter la réponse de cet auditeur?
C'est vrai que c'est un peu tout. C'est vrai que, alors, je dirais peut-être le gel, parce qu'en effet, si on part en ayant gelé, ça sera jamais au bout, on n'aura pas la récolte, qui va donc entamer la rentabilité de l'exploitation. Mais c'est vrai qu'après, nous, c'est la pluie du printemps, souvent après, qui va être l'autre souci majeur avec les maladies de la vigne.
On parlait de changement un petit peu de la carte viticole. Un exemple peut-être assez étonnant, mais c'est dans le nord, à 136 mètres d'altitude, dans un dénivelé de 80%, le terril d'Aïcourt. Des vignerons ont planté une vigne sur d'anciens déchets miniers d'autrefois. Des vignes bio, donc sur une terre noire. C'est un reportage de France 3 Hauts-de-France avec Henri Jamet. Il est viticulteur dans le sud-ouest, mais il a rejoint le nord pour se lancer dans ce projet.
Quand j'ai vu le terril, avec bon une exposition sud, la pente, la nature du sol qui me paraissait pas très riche, et puis aussi un peu le côté un peu fou de l'idée. Enfin, voilà, c'est tout ça qui m'a convaincu. Ouais. Disons que on a peut-être pas été les premiers à y penser, mais les premiers à oser le faire. Ouais. Parce que il y a quand même des écueils culturaux indéniables. Hein, il faut tout faire à la main. C'est compliqué, quoi. Ça coûte cher.
Les vignerons d'Aïcourt visent le haut de gamme avec leur bien nommé Charbonnet. Un vin blanc audacieux dont les 800 bouteilles par an se retrouvent chez de rares cavistes ou sur des grandes tables de restaurants.
Il sent super bon. C'est fruité, disons, c'est frais. Ouais, non, il est parfait. Ouais. Ça va évoluer bien. Ça va être un beau millésime.
Voilà, Nathalie Ola, des vignes donc sur les terrils. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ben, ça fait partie d'une des options en matière d'adaptation, bien sûr à l'échelle nationale. Hein. Dans le cadre du projet La Cave, on s'est intéressé aux vignobles bretons, voir quel était le potentiel, comment ça pouvait évoluer. Et puis on a eu vent de ces expérimentations qui sont réalisées dans le nord de la France. Hein. Il y a un autre vignoble, je crois, qui a été installé avec des variétés résistantes aux maladies, combinées à différentes pratiques pour voir si on peut mettre des vignes dans ces régions-là. Voilà, c'est une option. Hein,
ça. Mais dites-nous en plus quand même sur le vignoble breton. Alors, c'est à quelle échelle, hein? À quelle échéance, pardon?
Alors, il y a déjà des vignes. Hein, il y a quelques, je crois qu'il y a une vingtaine d'hectares. Hein, c'est un travail de plusieurs propriétaires avec une vision collective hein, de lancer une dynamique. Et puis, on a, avec des collègues du CNRS et de l'Université de Rennes, nous avons encadré une étudiante qui a fait un travail pour voir quels cépages pourraient être cultivés d'ici la fin du XXIe siècle. Et la plupart des cépages blancs vont mûrir hein, d'ici la fin du XXIe siècle. Et puis, quelques cépages rouges, donc, voilà, il y a un vrai potentiel. Après, ça c'est dans nos études, on n'a pas analysé tous les paramètres et il y a quelque chose qui pourrait peut-être mettre en danger quand même le développement de cette viticulture, c'est la pluie, parce que ben la Bretagne c'est quand même très exposé à la pluie et ça peut avoir des conséquences sur les maladies. Donc voilà. Il y a des espoirs, mais tout n'est pas rose.
Ouais.
Par rapport aux solutions, encore plusieurs messages sur la page de la Terre au Carré par mail. Xavier nous écrit s'il ne faudrait pas tout simplement laisser quelques cépages développer, dit-il, une sorte d'immunité collective. Et Laurence, elle, demande pourquoi il est interdit d'utiliser des cépages hybrides résistants à certaines maladies ou champignons. Qu'est-ce que vous en pensez, Gaëlle Reynoux-Gravier?
Alors déjà, en France, on a une notion d'appellation. Donc déjà, on ne fait pas, quand on veut respecter, on respecte un cahier des charges. Donc dans un cahier des charges, on a des cépages qui sont imposés pour le secteur. C'est pour ça que la Bourgogne, ça va être le Pinot Noir et le Chardonnay. Et chez nous, donc par exemple dans le Bergeracois, on est sur Merlot, Cabernet, Malbec, et puis les Sauvignons, le Sémillon. Donc ça, on a quand même quelque chose, ça c'est la culture française, c'est-à-dire c'est ce qui fait partie de notre histoire. On a élaboré des cahiers des charges avec des appellations, des choses assez délimitées par des règles. Et donc déjà, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Après, il y a pas mal de travaux sur l'introduction de nouveaux cépages et qu'ils participent à ces cahiers des charges, qui rentrent dans les cahiers des charges en fraction minoritaire, mais que pour nous aider justement à accompagner ces changements climatiques. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion partout sur l'introduction de nouveaux cépages. Mais après, on est sur une culture pérenne. On plante pour 40, 50, 60 ans. Donc on peut pas tout changer, se dire ah bah on va tout changer, parce qu'après ça changerait aussi le profil organoleptique de nos vins.
Gaëlle Reynoux-Gravier, justement, vous parlez d'appellation très délimitée. Est-ce que les consommateurs se prêtent au jeu et arrivent à comprendre que même d'une année sur l'autre, un cépage puisse donner un vin très très différent?
Alors, c'est ce qui fait partie de la richesse de notre métier, c'est que voilà, on fait pas une boisson tous les ans la même. Donc ça fait partie. Donc les gens sont heureux de déguster nos nouveaux millésimes, de dire ah ben cette année je le trouve plus fruité, plus acide. Enfin voilà. Après, je me pose toujours la question de l'écart de ces millésimes. Par exemple, si on prend 2020, un millésime très solaire, très mûr, très concentré, et 2021 qui va être plus sur la fraîcheur, avec des couleurs un peu moins, un peu moins vives. Donc après, c'est sûr que moi, je me dis comment le consommateur va percevoir ces différences. Mais après, on voit quand même que les gens sont très friands de vin alcooleux. Finalement, les gens me disent « Ah non, 14-15 degrés, c'est beaucoup. Mmh. » Et puis finalement, les vins du Sud ont très grand succès au niveau de la clientèle consommatrice de vin.
Alors une question d'Annick qui voudrait savoir, Nathalie Hollas, qui pourra pousser à la place des vignes dans certains lieux éventuels?
Alors, c'est souvent une question qu'on se pose, parce que on pense que la vigne, c'est une plante d'origine méditerranéenne qui est quand même globalement bien adaptée à des environnements contraignants. Donc, on a un peu le sentiment que après la vigne, ça sera plus compliqué de faire pousser des cultures qui soient au moins aussi rentables. Donc c'est peut-être la culture de la dernière chance. Après, on va aller vers des cultures de pays beaucoup plus arides. Alors c'est pas évident. Donc vraiment la vigne, il va falloir y trouver toutes les pratiques et elles existent, ces pratiques, pour adapter la culture, la faire évoluer en fonction des nouvelles conditions climatiques, pour pouvoir la maintenir le plus possible.
On va écouter un exemple justement avec Laurent Ménadier qui est vigneron à Filou dans l'Aude. C'était dans le Zoom de France Inter en octobre dernier. Depuis 13 générations, donc, ils font du vin, mais cette fois-ci, plus de vignes chez lui. À la place, vous allez entendre des figuiers, des rangées d'aloe vera et des plantes aromatiques.
Ici, on va avoir du romarin camphré. Ces odeurs-là sont fantastiques. On est voilà, du romarin qui explose. Après, on va avoir de l'origan un peu plus loin, de la sauge officinale. Le fait d'avoir une solution, une échappatoire, je vous assure que je ne travaillais pas de la même manière. Je vois le mur arriver, hein, le changement climatique, je vois les problèmes, mais je vois qu'on peut trouver une solution. Voilà. Et donc, quand je viens sur cette parcelle, je suis plutôt content de venir. Oui. J'ai passé des heures, mais c'est vrai, à nettoyer les pieds, à enlever l'herbe, à labourer. Mais je suis plutôt content de participer à ce changement-là.
Le vigneron Laurent Ménadier, donc dans l'Aude. Gaël Réunou, Gravier, vous n'en êtes pas encore à vous demander ce que vous pourriez mettre à la place de vos vignes dans le Bergeracois, j'imagine.
Non, c'est quand même économiquement, c'est très, le poids de la viticulture est fort dans nos départements, donc évidemment non. Après, il y a des parcelles qu'on va condamner, c'est-à-dire que on va dire bon, ben celle-là, on va plus la replanter parce que elle gèle tous les ans, ou alors c'est trop humide. Voilà, on va plutôt réfléchir à nos encépagements, à où on va continuer à faire de la vigne, mais de là à dire qu'on va faire autre chose, enfin clairement, on n'est pas dans des zones. On pourrait faire des céréales ou parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc après, on va essayer de maintenir le plus longtemps possible la viticulture.
Une question de Jean-Pierre des Bouches-du-Rhône qui demande, Gaël Reynoux-Gravier, si l'absence de désherbage n'est pas en contradiction avec le réchauffement climatique, les mauvaises herbes entrant en compétition pour l'eau avec la vigne. Mais peut-être qu'on précise que même si vous êtes en bio, vous faites du désherbage, sauf que je pense que c'est manuel, c'est ça?
Oui. C'est ça. Alors c'est mécanique, on désherbe mécaniquement, alors essentiellement sous le pied de vigne au niveau de la zone de production, donc au niveau du pied. Donc ça, on pratique des désherbages mécaniques.
Vous arrivez à passer entre les vignes? Ah oui, d'accord.
Oui, en fait, on a des outils derrière le tracteur qui sont attelés, qui travaillent entre chaque pied de vigne. Voilà, donc c'est de plus en plus facile parce qu'il y a des outils qui sont plus performants que ça n'était il y a 40 ans. Donc après, ça reste contraignant. Et après, par contre, ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire qu'on aussi pratique les couverts permanents, c'est-à-dire qu'on sème volontairement des céréales, des légumineuses dans nos vignes pour participer à la structuration du sol et pour apporter de la matière organique à nos vignes. Donc vraiment, d'un côté, l'herbe peut être négative parce qu'elle va apporter de l'humidité ou au niveau du pied de vigne ou de la concurrence, mais surtout, nous, on la voit maintenant de manière très positive. Elle aide dans cette conduite de la vigne au quotidien.
Allez, encore une question avant de marquer une petite pause.
Rose voudrait un message d'espoir pour les nouvelles générations qui veulent se lancer dans la viticulture malgré les contraintes déjà présentes. Qui
Nathalie
peut lui donner
Ola.
Un petit message?
On voit de l'espoir quand même dans vos travaux. Hein,
oui, on a...
L'adaptation, c'est l'espoir au fond, non?
Je pense que c'est l'espoir, et comme je le dis, je pense que la vigne, c'est une plante qui peut valoriser ces conditions climatiques, alors peut-être plus ou moins facilement là où on se trouve, mais je pense que... tout existe pour avoir de l'espoir sur ces questions-là.
Allez, encore une salve de questions pour vous dans un instant avec les auditeurs de la Terre au Carré qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux et sur la page de l'émission. Voici Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette.
Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguet de l'autre côté du miroir d'un café.
Mon baguet, il est parfait. Au pays des merveilles de Juliette. La 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 la. la tire qui mène à Hollywood. Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Voilà, petit retour à l'année 1973 avec Yves Simon, nos invités Nathalie Ola et Gaël Reynoux depuis les studios de France Bleu Gironde pour nous parler vin et changement climatique. Valérie Ayestaraï demandait si 73 était un bon millésime pour le vin. Gaël Reynoux, est-ce que comme ça, brûle pour point, vous pouvez...
Comme ça, je sais pas.
Ah oui, hein, compliqué d'y répondre.
Les années en 3, c'est pas toujours les meilleures années. Après, je saurais pas dire 73.
D'accord, je ne suis pas sûr que ce soit très scientifique, mais bon, en tout cas, vous avez observé ça. Est-ce que justement, parce qu'on parle de changement climatique, vous, en tant que viticultrice, vous faites attention à votre empreinte carbone pour essayer de faire en sorte que dans les années qui viennent, on balance moins de gaz à effet de serre.
Oui, alors ça c'est vraiment un questionnement aussi de tous les jours, c'est-à-dire que petit à petit, moi j'y viens petit à petit, c'est-à-dire d'abord me mettre à la bio, et puis aujourd'hui, on sait que tout passage mécanique a une incidence. Évidemment, quand on passe pour mettre de la bouillie bordelaise pour protéger nos vignes, ben plus on passe, plus. Mais ça, ces passages-là, ils sont obligatoires, sinon on n'a pas de raisin. Mais par contre, à côté de ça, il y a des passages, moi, que je vais plus faire, les passages, comme on dit, un peu esthétiques, c'est-à-dire je fais en sorte que ma vigne soit belle. Ceux-là, moi, je veux plus les faire parce que ceux-là, ils ont un impact direct sur notre consommation de gasoil. Et donc après, on a quand même en viticulture, on transporte du verre, donc voilà, on expédie des bouteilles de vin au travers du monde, et de ça quand même il y a une grosse réflexion autour de ça, c'est-à-dire le poids du verre qu'on utilise, les cartons, c'est notre... Maintenant vraiment c'est la prochaine étape, je pense.
Vous traquez absolument tout, en tout cas, là vous pouvez faire des économies.
Garcia nous écrit sur franceinter.fr, je vous écoute et je suis au cœur de votre sujet parce que j'ai planté de la vigne à 1300 mètres dans les Pyrénées catalanes, nous dit-il. Et Stéphane lui nous demande, Nathalie Ola, si on va pas voir arriver finalement avec tout ça des cultures viticoles peut-être sous serre. Est-ce que ce serait faisable?
Alors oui, c'est faisable, il y a des... Dans un certain nombre de centres de recherche, il y a des cultures sous serre, il y a des cultures de raisins de table qui peuvent être conduites sous serre. Et puis aujourd'hui, on essaie de produire des plants aussi sous serre.
Mais est-ce que ça va s'étendre du coup? Est-ce que ça va peut-être prendre plus de place?
Je pense pas que ça soit la solution pour réduire l'impact carbone et répondre à la question du changement climatique. Alors effectivement, la question de la plantation en altitude, quand c'est possible, l'augmentation, on l'avait vu dans les Pyrénées-Orientales. Alors après, il y a une question, on peut monter en altitude pour réduire les températures, mais il y a des problèmes de vent qui peuvent se poser. Donc... Il n'y a pas de solution très simple de ce côté-là.
Nathalie Ola, est-ce que quand même un des risques, c'est pas de produire dans le futur des vins qui ne seront plus du tout représentatifs des terroirs tels qu'on les connaît aujourd'hui?
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les vins, ils ont un peu toujours évolué à travers les années. Les vins d'aujourd'hui sont plus tout à fait les mêmes que ceux du début du XXe siècle. À Bordeaux, au début du XXe siècle, il y avait quasiment pas de Merlot. Et pourtant, on considère les vins du début du XXe siècle comme des vins de Bordeaux, et puis les vins d'aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de Merlot, une majorité d'ailleurs, comme aussi des vins de Bordeaux. Donc cette évolution, elle a toujours existé. Alors là, elle peut être plus rapide. Et ce qu'il va falloir faire, c'est, il y a peut-être dans une même région cohabiter des vins qui seront peut-être un peu moins caractéristiques de la typicité qu'on connaît aujourd'hui. et puis des vins qui essaieront de, en mobilisant un certain nombre de pratiques, en plantant sur des terroirs les plus adaptés aussi, peut-être moins exposés au sud, et bien qui conserveront la typicité.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci aux équipes de France Bleu Gironde à Bordeaux, donc qui nous ont permis ce duplex. Gaëlle Réunou-Gravier, pour ceux qui souhaitent goûter votre vin bio pour la première fois donc cette année, hein, c'est ça. Il faut aller sur votre domaine. Vous nous en redonnez le nom, s'il vous plaît.
C'est le domaine de Perrault.
Et c'est en Dordogne.
Voilà. C'est en Dordogne.
En Dordogne. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Et à très bientôt, on l'espère.